Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 23 mai 1401 du calendrier iranien, 15 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran condamne les ingérences occidentales dans ses affaires intérieures. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, critique le double standard occidental. La République islamique d'Iran a condamné les déclarations interventionnistes du président français Emmanuel Macron. Et en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes ont tué 3 autres Palestiniens en une seule journée. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a critiqué le double standard occidental pratiqué systématiquement envers la réponse de l'Iran aux récentes émeutes et des actes de vandalisme dans le pays. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déploré le fait que la même Union européenne ne réagit jamais de telle manière à des événements similaires dans les pays occidentaux. Il exhorte les autorités européennes à adopter une approche réaliste envers les récentes évolutions en Iran. Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell. Pour sa part, Borrell a assuré à Amir Abdollahian que l'Union européenne ne souhaitait pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. La diplomatie iranienne a dénoncé par la voix de son porte-parole les allégations interventionnistes du président français Emmanuel Macron sur les récentes émeutes déclenchées en Iran, les qualifiant d'indiscrètes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a averti que la condamnation par le président français Emmanuel Macron de la réaction de la République islamique d'Iran aux violences encourage les émeutiers et les fauteurs de troubles. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la condamnation intervient alors que le gouvernement français lui-même a menacé de briser par la force une grève des raffineries qui touche le pays depuis près de 3 semaines. Nasser Kanani, qualifiant l'approche du gouvernement français d'hypocrisie flagrante, a ajouté que ce geste prouve une fois de plus que de nombreux gouvernements occidentaux utilisent la question des droits de l'homme comme un outil pour donner suite à leurs objectifs politiques. Au cours des dernières semaines, les missions et les représentations diplomatiques de l'Iran au cœur de l'Europe, dont au Royaume-Uni, en Norvège et en France, ont été attaquées. Les forces israéliennes ont tué 3 Palestiniens en une seule journée en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a tué un Palestinien vendredi soir lors d'une fusillade dans une colonie près de la ville de Ramallah en Cisjordanie occupée. Les forces de l'occupation israélienne ont arrêté un autre Palestinien en lien présumé avec l'incident qui a blessé un colon israélien. Plus tôt vendredi, les troupes de l'armée israélienne ont attaqué le camp de réfugiés de Jenin, tuant 2 Palestiniens. L'un d'eux était un médecin qui a été abattu alors qu'il s'occupait des blessés. Plus d'une centaine de Palestiniens ont été tués jusqu'à présent cette année dans les territoires occupés, pour la plupart depuis mars, où le régime sioniste a lancé une répression continue à la suite d'une série d'attaques meurtrières de Palestiniens contre les Israéliens. Les groupes de résistance palestinienne disent que les attaques sont une réponse aux atrocités commises par les Israéliens. Pour la résistance palestinienne, les opérations de représailles sont le résultat naturel de l'escalade des crimes du régime sioniste contre les villes, les prisonniers, les lieux sacrés et les civils palestiniens. Les Palestiniens sont soumis à des centaines de crimes et d'abus israéliens qui sont devenus presque quotidiens, tels que les raids sur les bâtiments et les lieux sacrés, les assauts et la démolition systématique des maisons. Les opérations israéliennes contre les Palestiniens sans défense ont violé toutes les lois et conventions internationales. Un grand nombre de personnes ont malheureusement été tuées après 3 jours de bombardements par le régime d'occupation israélienne lors d'une récente offensive sur la bande de Gaza, soumise à un blocus inhumain depuis 2007. Le monde assiste tristement, passif et silencieux, au déroulement de la pire des violences israéliennes. Et enfin, en Turquie, une explosion à l'intérieur d'une mine de charbon dans le nord du pays a fait vendredi 40 morts et des dizaines de blessés parmi les mineurs. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré samedi que la mort de 40 mineurs était confirmée après l'explosion survenue dans une mine de charbon ce vendredi dans le nord-ouest du pays. 11 ont été blessés et hospitalisés, tandis que 58 autres ont réussi à sortir de la mine par leurs propres moyens ou ont été secourus sains et saufs. Le statut d'un mineur restant n'était pas clair. Le ministre de l'Énergie a déclaré que les opérations de sauvetage étaient presque terminées. Il avait auparavant déclaré qu'un incendie brûlait toujours dans la galerie de la mine où plus d'une dizaine de mineurs avaient été piégés. Les travaux visant à isoler et à refroidir le feu se poursuivent, a-t-il ajouté. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a souligné que la République islamique d'Iran est le point de la stabilité et de la sécurité dans la région, et non pas un pays de révolution ou de coup d'État coloré, dénonçant ainsi l'intervention étrangère de certains pays occidentaux dans les affaires intérieures de l'Iran. Lors d'un appel téléphonique avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la mort de Mahsa Amini est une douleur pour nous tous. Cependant, il a souligné que cette question est simplement considérée comme un prétexte pour l'intervention de certains pays occidentaux dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rassuré que les protestations et les revendications pacifiques sont différentes des émeutes, soulignant les émeutes violentes qui sont soutenues par l'Occident. En outre, évoquant le double standard de certaines autorités occidentales, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amirabdollahian, a déclaré « Qu'a fait l'Occident concernant des centaines de cas de meurtres intentionnels de femmes et d'enfants au Canada et aux États-Unis, en particulier par la police ? On ne peut pas dire que les formes d'affrontement les plus violents face aux émeutiers en Europe puissent être considérés comme un acte bon et acceptable, cependant le même acte soit considéré comme une répression en Iran, même lorsqu'il est dans le cadre légal. » Sur le même sujet, le ministre iranien des Affaires étrangères a également dit « Qui croirait que la mort d'une jeune femme est si importante pour les Occidentaux ? Si oui, qu'ont-ils fait aux centaines de milliers de martyrs et de morts en Irak, en Afghanistan, en Syrie et au Liban ? Ils veulent déclencher une guerre sectaire en Iran, c'est tout. » Lors de la conférence internationale sur l'unité islamique, Hossein Amirabdollahian a précisé : ces dernières semaines, des parties étrangères ont tenté d'intervenir dans notre pays en abusant d'un problème interne. Il a souligné que certaines des demandes pacifiques ont été satisfaites et recevront une réponse. Il a ajouté « Mais nous assistons à l'introduction d'armes à feu dans certaines des manifestations et ces armes ont été importées de l'étranger. Nous n'avons pas de telles armes en Iran. » Hossein Amirabdollahian a donné un exemple concret des mouvements de l'ennemi pour créer la division entre chiites et sunnites pendant les années d'occupation américaine de l'Irak. Pendant les années d'occupation de l'Irak, après 2003, par les États-Unis, des événements étranges et sans précédent ont été observés pour créer une division entre les chiites et les sunnites en Irak. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également noté « Au Yémen, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Palestine, au Liban et ailleurs, nous avons été témoins de nombreux cas où l'ennemi a tenté de créer une division entre les nations musulmanes il a fait ainsi référence à la nature interventionniste de certains pays occidentaux. L'Iran a pleuré la mort de Mahsa Amini, une jeune citoyenne décédée dans un hôpital de Téhéran après s'être effondrée en garde à vue. Les Iraniens ont organisé des manifestations à ce sujet. Mais certains éléments extrémistes ont fait dérailler les manifestations et incité à la violence contre les forces de l'ordre. Les médias soutenus par l'Occident ont également encouragé la violence. L'Iran dit qu'il ne permettra pas l'ingérence dans ses propres affaires intérieures.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de télévision de Presse TV à partir des studios de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le 6e sommet de la SICA qui a lieu donc à Astana. Comme d'habitude pour notre débat, nous commençons donc par un reportage et par la suite, deux de nos invités vont en discuter. Donc tout de suite, je vous propose le reportage que nous avons préparé.
Le président iranien Ebrahim Raisi, lors de la 6e réunion des chefs des pays membres, du sommet d'interaction et de mesures de confiance en Asie, connu sous le nom de SICA en Kazakhstan, a exprimé l'espoir qu'en transformant le SICA en une organisation régionale, le processus de coopération pour acquérir une position effective au niveau régional et international se poursuivra. Le président iranien a ajouté: cette transition a besoin d'être guidée et dirigée afin qu'elle ne soit pas prise dans les séquelles des systèmes internationaux précédents. Ebrahim Raisi a déclaré: le capital civilisationnel et spirituel qui forme les valeurs communes de l'ancien continent asiatique garantit l'ordre et un monde qui rejette l'oppression, l'injustice et l'unilatéralisme et s'en occupe. Raisi a déclaré: l'élément clé pour assurer le succès de ce processus est la coopération et la coordination des pays indépendants. Le président iranien a également déclaré: la République islamique d'Iran se considère engagée dans cette voie et afin de réaliser un ordre juste fondé sur la coopération et le respect mutuel, elle met l'accent sur la politique de voisinage, le multilatéralisme et la convergence durable. Raisi a ajouté: les pays terroristes ne devraient pas définir les règles de la lutte contre les terroristes.
Alors nous revoilà, donc nous allons accueillir nos deux invités. Aujourd'hui nous accueillons M. Philippe Hugon, reporter de guerre. Bonjour M. Philippe Hugon.
Bonjour, merci à vous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre sujet de concernant donc la réunion, le comité de réunion. Et deuxième invité avec nous, Monsieur Luc Michel, géopoliticien à Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous et à votre équipe et surtout à Monsieur Hugon. J'espère que la technique aujourd'hui sera avec nous.
Nous aussi. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir tous les deux sur le plateau aujourd'hui. Alors, un sujet important cette semaine a été donc le départ de M. Raisi pour Astana et notamment son discours qui prône l'indépendantisme et surtout l'arrêt définitif de l'interaction des autres pays dans les plus petits pays d'Eurasie. Monsieur, je propose à M. Philippe Hugon de démarrer le débat. M. Philippe Hugon, qu'est-ce que vous pensez donc du discours de M. Raisi lors du sommet?
Alors, bien sûr, moi je comprends tout à fait la politique iranienne, la politique étrangère iranienne menée par l'Iran depuis de nombreuses années. Et cette politique, elle vient du fait qu'en dans l'Union européenne, dans sa globalité, on a toujours marginalisé un certain nombre d'États, c'est le cas notamment de l'Iran, mais également dans un certain nombre de pays moins importants, je dirais. Et il en résulte aujourd'hui qu'on voit ces pays se tourner vers d'autres nations que l'Union européenne, tout simplement parce que ces pays ont besoin d'accords commerciaux, financiers. Et donc on pousse un petit peu ces pays à avoir une politique un petit peu marginale, je dirais. Et nous en sommes d'ailleurs, nous Européens, les responsables de cette politique désastreuse menée par les gouvernements français, britanniques et bien d'autres, hein. Et nous sommes vraiment les artisans de ces scissions qu'il peut y avoir entre des pays comme la République d'Iran, mais également comme d'autres pays moins importants. Donc on pousse ces gens-là à des alliances qui ne sont pas forcément de bonnes alliances avec ces pays marginaux. Et c'est une véritable erreur que nous faisons sur le plan international, la marginalisation, l'intolérance de l'Union européenne qui prétend d'ailleurs être une Union européenne tolérante, conciliante. Et en fait, on s'aperçoit que cette radicalisation mène à des politiques qui sont vraiment désastreuses, non seulement pour l'Union européenne, mais désastreuses à travers le monde envers un grand nombre de pays. Et je trouve d'ailleurs que ces pays sont encore, je dirais, très gentils avec l'Union européenne pour ne pas avoir pris des décisions beaucoup plus radicales envers nous. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps.
Merci, Monsieur Philippe Hugon. Donc, Monsieur Luc Michel, je vous propose donc de donner votre point de vue donc, sur le discours de Monsieur Raïssi, du président Raïssi.
Écoutez, lui a tout à fait raison, mais dans cette affaire-ci, c'est une affaire qui concerne surtout la Russie et la Turquie. Il y a quatre choses à retirer. Tout d'abord, la réunion du SICA elle-même, elle manifeste le pivot de la Russie qui, de puissance eurasiatique, a quitté l'Europe pour aller vers l'Eurasie, vers l'Asie. C'est aujourd'hui la volonté de la Russie de se tourner vers l'Asie. Et malheureusement, les Américains ont obtenu l'un de leurs buts de guerre en Ukraine, puisqu'aujourd'hui, il y a un fossé infranchissable entre l'Union européenne et la Russie, alors qu'elles auraient dû s'y lier. La deuxième chose, c'est le dossier qui est proposé à Recep Tayyip Erdogan de créer un hub gazier pour contourner les sanctions et continuer à vendre le gaz russe en Europe. On ne sait pas évidemment ce que la Turquie, qui est en crise économique, va décider. Le troisième domaine, évidemment, c'est l'opportunisme de la Turquie. La Turquie doit se décider à choisir entre l'Eurasie et l'OTAN. C'est la deuxième armée de l'OTAN. C'est la principale alliée des États-Unis en Afrique et au Proche-Orient. Et aujourd'hui, elle vend des drones, elle vend des armes, évidemment, à l'Ukraine. Et elle veut en même temps se dire l'ami de la Russie. Ce n'est pas possible. De plus en plus, la Turquie fait le grand écart. On n'a plus beaucoup d'illusions, en particulier à Téhéran sur cet aspect. Enfin, le quatrième dossier, c'est la crise alimentaire. C'est l'accord qui avait été conclu pour vendre le blé russe et ukrainien sur les marchés africains. Cet accord s'est révélé une escroquerie. C'est-à-dire que l'Union européenne a accaparé 98% des bateaux pour son domaine interne et n'a pas livré l'Afrique. Mais plus, Mme Ursula von der Leyen a bloqué dans les ports européens 300 000 tonnes d'engrais russes données à l'Afrique, alors que les sanctions ne concernent pas ces engrais. C'est donc une mesure illégale prise unilatéralement par l'agent américain et Mme von der Leyen. Cet accord doit être renouvelé dans quelques jours. Et bien entendu, c'est de ça que Poutine va discuter avec Erdogan, puisque la Russie n'est plus d'accord pour l'escroquerie occidentale.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, Monsieur Philippe Hugon, souhaitez-vous rajouter des choses à ce que vient de dire M. Luc Michel? Parce que c'est vrai, les ports et les grains, ainsi que l'engrais proposé par les Russes, il a été divulgué en septembre à la rentrée, comme quoi Ursula a donc bloqué ces affaires-là de manière tout à fait illégale, en mettant des clauses dans des dossiers qui étaient à peine lisibles. C'est souvent ce qui est fait lorsqu'on ne veut pas faire des choses officiellement. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces choses-là? Parce que, en encore une fois, ce n'est que souligner le côté illégal de chaque démarche qui se fait à l'heure actuelle du côté occidental.
Alors, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on est, enfin aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, peut-être même un peu plus, hein, l'Union européenne et les États-Unis, d'une manière générale, ont toujours agi un peu illégalement dans un grand nombre de dossiers. Hein, c'est pas seulement là avec l'histoire de l'Ukraine et des produits alimentaires ukrainiens. Je crois qu'on se permet de faire des choses... sous l'étiquette de la supériorité occidentale. Et moi, je trouve ça un petit peu scandaleux aujourd'hui qu'on puisse accepter ce genre de compromis. Et je pense que tout ceci va nous retomber dessus. Moi, je l'Iran, et pas seulement l'Iran, mais en certain nombre de nations, se tourner maintenant vers la Chine, puisqu'ils ont bien compris qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'Union européenne ne joue plus son jeu et ne joue plus son rôle, pardon. Et aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'on est nous-mêmes, on s'est mis dans une parfaite illégalité en ce qui concerne un certain nombre d'accords passés à l'époque. Et je trouve scandaleux qu'on ait pu accepter ce genre de compromis, en espérant bien sûr que les choses s'arrangent petit à petit. Mais je dois dire que je n'y crois pas beaucoup. Et je pense quand même qu'on va vers un conflit économique important. Ce conflit, il a déjà commencé il y a déjà quelques années avec le blocage des produits ukrainiens. On voit bien que l'Union européenne fait un petit peu n'importe quoi. Tout ça avec l'appui des Américains, parce qu'il faut bien le préciser. Et aujourd'hui, ça cause un déséquilibre très, très important au niveau économique.
Merci, Monsieur Philippe Hugon. Alors, y a-t-il pas un risque, finalement, que ces pays qui se sentent lésés d'un point de vue légal, écrivent tout simplement leur propre loi? Monsieur Luc Michel, vous-même qui suivez depuis assez longtemps tout ce qui se passe en Afrique et le côté illégal de plusieurs actions qui sont faites là-bas, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fin de compte, là, en ayant ce genre de sommet qui exclut complètement une grosse partie du monde occidental, qui est basé qu'uniquement sur, finalement, l'Eurasie et l'Asie, est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, en fin de compte, on arriverait à de nouvelles lois internationales qui excluraient tout à fait les Occidentaux?
Mais vous savez que du temps de Kadhafi, la Libye était mon second pays. Et j'ai découvert là-bas la politique des sanctions et des embargos, puisqu'on a étouffé la Libye de Kadhafi du début des années 1990 jusqu'en 2003-2004. Il faut revenir quelque chose. Ronald Reagan avait dit que les ennemis de l'Amérique, c'était les États voyous. Aujourd'hui, les voyous, ce sont les Américains et l'Union européenne. Des gens comme Biden, Joseph Borrell, Madame Ursula von der Leyen ou Charles Michel, mon homonyme. Nous ne sommes pas parents et j'en suis fort aise. Aujourd'hui, 40% de la population mondiale est sous embargo américain. Et l'Amérique a sapé elle-même les fondements de son ordre mondial et de sa globalisation. Aujourd'hui, tous ces pays dans lesquels il y a l'Iran, le Venezuela, la Russie évidemment, ils tressent des mécanismes et il faut un front commun contre les sanctions occidentales. Ce qu'il faudrait revenir évidemment, c'est la stupidité des dirigeants européens. Ce qu'on pouvait faire à des petits pays comme la Libye, comme l'Irak, comme la Yougoslavie, on ne peut pas le faire à un État-continent comme la Russie qui fait 130 millions d'habitants, qui est la première puissance nucléaire mondiale, puisque la Russie a hérité de l'Union soviétique un nombre de têtes nucléaires supérieur à celui des États-Unis. C'est donc cela qu'il faut retenir. Les Européens, ils sacralisent, soi-disant, le droit de propriété et la liberté du commerce, et en fait, ce sont dans la réalité des voleurs et des accapareurs.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, encore une fois, j'aimerais souligner le côté de ce sommet. On est loin d'une organisation comme la CEDEAO ou bien la Ligue arabe. C'est une organisation qui est bien plus solide parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que tous ces pays-là travaillent à organiser ce genre de sommet. C'est le sixième en date, mais de manière sous-jacente, ce sommet a été bien organisé et il ne faut pas oublier que différents pays de l'Asie et de l'Eurasie ont avancé énormément énormément d'argent pour permettre à ce que ces pays, lorsqu'ils se mettent en sommet, prennent des décisions, ont une valeur également financière importante dans le monde international. Monsieur Philippe Hugon, vous-même qui êtes à Neuchâtel, vous avez vu donc vous-même ces derniers temps ce qui se passe en France, ce qui se passe en Europe par rapport à l'énergie, par rapport à l'inflation, etc. Est-ce que l'organisation à l'heure actuelle est beaucoup plus solide qu'on pourrait le penser que l'Union même européenne, vu à l'heure actuelle la situation en Eurasie, les accords qui sont passés ces dernières 10 années et le manque de réaction et de réactivité de l'Union européenne qui est finalement restée figée sur 10 ans en disant oui, c'est la fin de l'Union européenne, oui, nous avons un problème, mais est-ce qu'il y a une décision qui a été prise d'une manière intelligente? Pas vraiment.
Ah ben non, il n'y a pas de décision intelligente, comme vous le disiez, mais l'Union européenne, c'est un peu un sac fourre-tout. Hein. Il faut bien savoir qu'à l'époque du général de Gaulle, bien qu'il y avait le marché commun, l'Angleterre n'en faisait pas partie et on avait toujours des dissensions d'une façon permanente. Donc, c'est encore le cas aujourd'hui dans l'Union européenne. Et moi, je trouve très, très bien, par contre, qu'il y ait aujourd'hui une organisation qui puisse contrecarrer un petit peu les décisions prises en Europe. Et il est vrai que tous ces pays marginalisés ont tout intérêt à se regrouper sous une bannière financière et économique de façon à rétablir un peu l'équilibre. Et il est normal que la Russie, que l'Iran, qu'un certain nombre de pays puissent se rassembler afin de trouver des solutions ensemble, puisque nous avons été, nous, l'Union européenne, les premiers à marginaliser ces pays-là pour de mauvaises raisons, parce que c'est ça qui est important. On a marginalisé un certain nombre de pays pour de mauvaises raisons. Alors l'Union européenne qui prétend être une union européenne tolérante et qui accepte les idées des autres, elle fait exactement le contraire de ce qu'elle devrait faire. Et si on voulait couper la Russie du monde économique et financier, c'est pas en marginalisant un certain nombre de produits de pays qu'on peut y arriver aujourd'hui. Donc en fait, on récolte ce qu'on a semé. On a semé le désordre, on va avoir le désordre. Et je pense qu'il est tout à l'intérêt de ces pays comme la Russie, l'Iran, la Chine de trouver des solutions eux-mêmes et de se regrouper sous une bannière de façon à avoir plus de puissance et de façon à faire pression sur le reste du monde afin de trouver des solutions, qu'elles soient financières ou économiques ou industrielles ou technologiques, peu importe, mais il est normal qu'il y ait de la part de ces pays une réaction et de façon à ce qu'il y ait une certaine solidarité envers ces produits que l'on marginalise depuis très longtemps. Moi, ce que je regrette en ce qui concerne notamment l'Ukraine, parce que je pense que c'est nécessaire d'en parler, c'est de savoir qu'avec le conflit ukrainien, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de compassion pour ces dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées pour de mauvaises raisons. Et il serait bien qu'on puisse un jour faire un débat là-dessus, parce que sur un plan humanitaire, c'est vraiment une catastrophe.
Il est évident que là, on joue avec des vies humaines. Lorsqu'on parle de sommets comme la SICA ou bien de l'Union européenne et qu'on voit les crises économiques qui en résultent de ces 10 ans de décisions géopolitiques qui ont mené à la guerre vers l'Ukraine, parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, il est évident qu'on a joué avec la nature humaine, on a joué également avec les vies humaines. Monsieur Luc Michel, vous pensez que ce sommet va pouvoir représenter un nouveau pôle de pouvoir et de puissance politique dans le monde? Notamment quand on pense aux fonds budgétaires de la Russie ou de la Chine qui depuis 20 ans, parce que ce n'est pas 10 ans qu'ils se préparent à ce genre de choses, mais c'est plus de 20 ans qu'ils mettent de côté tout l'or, l'euro et les dollars qu'ils possèdent. Est-ce que vous pensez donc que face à ce genre de sommet, on est en train de créer un nouveau pôle géopolitique?
Et à partir de 2006, la Russie a commencé à créer l'espace eurasiatique. Il l'a fait avec l'Iran, la Chine, 14 ex-républiques soviétiques. Aujourd'hui, l'espace eurasiatique dominé par Moscou, c'est une seconde Europe et c'est une anti-Europe par rapport à Bruxelles. L'Union européenne, qui était autrefois la CUE, c'est depuis 20 ans un projet géopolitique borné. Parce que dans le traité de Maastricht, on a confié la défense de l'Europe à l'OTAN. Aujourd'hui, L'Union européenne, c'est le bras politique de l'OTAN. Il est en train d'échouer. Et dirigé par une caste de politiciens atlantistes qui ont été mis au pouvoir par les Américains, qui ont des revenus lucratifs très élevés et qui ne s'intéressent pas au sort de leur population. Lors des premières guerres de Yougoslavie et d'Irak, le géopoliticien autrichien, le général Jordis von Lausen, qui est un partisan de l'eurasisme, il est décédé aujourd'hui. Il a dit que la participation des politiciens atlantistes aux guerres américaines était une trahison fondamentale des intérêts fondamentaux de leur peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, ces gens n'ont pas compris que Moscou était en train de tresser des mécanismes économiques, géopolitiques et militaires qui s'opposaient à l'OTAN, à l'Union européenne et aux États-Unis. Et lorsque l'opération spéciale en Ukraine a commencé, les opérations militaires au Donbass, c'était la cerise sur le gâteau. Mais Poutine avait deux buts. Le premier but, c'était d'en finir avec le nouvel affrontement américain proclamé par George Bush père à la fin de l'Union soviétique en 1991. Il a réussi. Le second but, c'est d'en finir avec l'économie américaine globalisée et notamment la dédollarisation du monde qui est en train de réussir.
Merci, Michel. Mais pour revenir à ma question sur la SICA, vous pensez, M. Luc Michel, que ça va pouvoir représenter un véritable pouvoir et un véritable pôle géopolitique dans le monde qui va plus ou moins donc, nettoyer ou clarifier la situation pour d'autres pays qui ne voudraient pas donc, rentrer en jeu avec l'Union européenne ou bien les États-Unis? Est-ce que vous pensez que ça peut être un véritable pôle de pouvoir?
La première chose, puisque les libéraux sont pour la loi du marché, les gens qui dominent le marché, ce sont les producteurs, ceux qui offrent les produits, pas les acheteurs. C'est ce que les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas compris quand ils veulent limiter le prix de vente du pétrole russe, par exemple. Poutine a déjà annoncé qu'il ne les livrerait plus. Il faut constater que la domination américaine commencée en septembre 2015 sur le marché des hydrocarbures pétrole et gaz, avec la production des hydrocarbures de Chine, elle est terminée aujourd'hui. Aujourd'hui, l'OPEP et l'OPEP Plus sont tournés du côté de la Russie, contre les États-Unis. Les Émiratis et les Qataris sont tournés du côté de l'Iran et de la Russie dans le domaine du gaz. Et enfin, en Afrique, les producteurs de matières premières sont tournés évidemment vers le bloc de l'Est. C'est terminé la domination occidentale. Ces gens-là n'ont pas compris les propres lois de leur libéralisme.
Merci beaucoup, M. Luc Michel. Monsieur Philippe Hougon, un petit mot pour conclure, pour finir. Donc, vous êtes vous-même européen, vous vivez en Europe, vous voyez quand même les Européens souffrir de ce genre de décision. On ne parle pas seulement des Ukrainiens. Vous-même, vous voulez en rajouter quelque chose par rapport à ce sommet et au nouveau pouvoir qu'il peut représenter?
Et oui, moi je dirais que ce nouveau pouvoir est une très bonne chose puisqu'elle va rétablir un petit peu l'équilibre. Il faut, comme le disait très bien Luc Michel, il faut savoir depuis 50 ans, les Américains dominaient à tous les niveaux, hein, au niveau financier, au niveau industriel, au niveau technologique. Donc il fallait bien s'attendre à ce qu'il y ait une réaction de la part des pays émergents, la Russie, la Chine, l'Iran. Et moi, vraiment, le profond regret que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas trouvé en Europe des solutions de façon à pouvoir dialoguer et trouver des accords avec tous ces pays, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans une impasse comme c'est le cas aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est là que se finit notre débat. Je remercie encore une fois nos invités, M. Philippe Hougon et Luc Michel, pour leur participation. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. C'est là que moi je conclue notre débat, qui était donc concentré sur Astana, le 6e sommet de la SICA et de son pouvoir géopolitique qui ne fait qu'évoluer ces dernières années. Je vous remercie de nous avoir suivis ici à partir des plateaux de Presse TV à Téhéran. Au revoir. We'll be right back.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. À l'occasion des célébrations marquant l'anniversaire de la bienheureuse naissance du grand prophète de l'islam, les participants à la 36e conférence internationale de l'unité islamique ont été reçus par le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, ce vendredi matin 14 octobre à Téhéran. L'unité intermusulmane, c'est l'unité des intérêts de l'Oumma islamique. Il faut évidemment commencer par définir ses intérêts, les identifier, et une fois cette étape passée, il faut des accords interislamiques autour de ces intérêts. L'Oumma devra voir avec qui se lier d'alliance et d'amitié et contre qui s'emporter. Et comment devront-elles se manifester ces alliances? Bref, l'unité interislamique signifie la communauté des actes contre les forces ennemies et les plans de l'arrogance mondiale. Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a évoqué la perspective d'un monde de l'islam désuni et affaibli par ses pseudo-dissensions. De son vivant, le grand prophète de l'islam, dont la prophétie a visé à créer et à renforcer l'unité entre les musulmans, souffrait quand il voyait souffrir son oumma, et aujourd'hui, il en est de même pour sa grande âme qui s'attriste au spectacle des douleurs et des souffrances des musulmans en Palestine, au Myanmar, en Afrique et ailleurs. Or, ce sont ces mêmes douleurs qui font retour nos ennemis. Des ennemis qui se démènent à causer du problème et empêtrer l'Oumma dans la misère et le malheur. Et de quoi l'Oumma islamique souffre aujourd'hui le plus? De la désunion, de la divergence. Nous, les musulmans, nous sommes séparés les uns loin des autres. Quand les musulmans ne sont pas bienveillants les uns envers les autres, lorsqu'ils sont même malveillants les uns envers les autres, eh bien, il est naturel que l'ennemi en profite. Le Saint-Coran le dit, toute dispute, toute querelle interne vous fragilise, vous rend faible, et c'est là que l'ennemi parvient à s'emparer de vous. Soulignant que l'unité islamique empêche les divergences religieuses de se transformer en conflit, le leader de la révolution islamique a exprimé ses regrets de voir Daesh continuer à commettre ses crimes en Irak, en Syrie et en Afghanistan, où des lycéens sont massacrés. Il y a des extrémistes chiites et sunnites qui n'ont rien à voir avec le chiisme ni avec le sunnisme, et ces extrémistes sont à bannir, car ce sont eux qui servent d'alibi pour que toute la région soit remise en cause. En Palestine, ce qui aide le régime sioniste à terroriser et martyriser les Palestiniens, c'est le chiisme et la dispersion au sein de l'Oumma. C'est contre cette dispersion que la République islamique d'Iran n'a cessé d'agir, d'où son soutien aux azimuts, aux frères sunnites palestiniens. Et ce soutien est continu à l'ensemble de l'axe de la résistance, nous croyant en la grâce et la providence et souhaitons œuvrer pour que l'unité islamique se consolide et qu'elle devienne une réalité, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Les législateurs irakiens ont élu le politicien kurde Abdul Latif Rachid comme nouveau président du pays, ouvrant la voie à la formation d'un nouveau gouvernement et mettant fin à une année d'impasse. Rachid a remplacé son compatriote kurde Bahram Saleh à la tête de l'État après le vote à deux tours au Parlement le jeudi 13 octobre, remportant plus de 160 voix contre 99 pour Saleh, a déclaré un responsable de l'Assemblée. L'homme politique de confession chiite, Mohammad Shia al-Soudani, a été rapidement nommé Premier ministre, assumant la tâche de former un gouvernement après un an d'impasse. Al-Soudani remplace le Premier ministre par intérim Mustafa al-Kazemi. Selon le système de partage du pouvoir en Irak établi depuis 2003, la présidence doit être réservée aux Kurdes, le poste de président du Parlement aux sunnites et le poste de Premier ministre aux chiites. Le 12 octobre de l'année dernière, Mohammad al-Halboussi a de nouveau été élu président du Parlement. Mais les chiites et les kurdes n'ont pas pu s'entendre sur la nomination de premier ministre et de président pendant des mois. Après l'échec du courant Sadr à nommer un candidat au poste de premier ministre, à former un gouvernement et la démission collective de ses députés au Parlement, le bloc cadre de coordination a nommé Mohammad Shia Soudani comme candidat au poste de premier ministre. Et puis des chiites, des kurdes, des sunnites et même la minorité chrétienne l'a soutenu. Bien que le courant Sadr n'ait pas encore adhéré à cette coalition, les consultations sont toujours en cours. Auparavant, il avait été annoncé que la moitié du quota de chiites dans le nouveau gouvernement, soit 6 ministères sur un total de 12 sièges chiites, serait consacrée au courant Sadr. Mohammad Shia al-Soudani a confirmé le jeudi 13 octobre que la lutte contre la corruption sera au premier plan des priorités du prochain gouvernement, ce qui a été toujours entériné par le dirigeant sadriste Murtada Sadr. Avec l'élection du président et la nomination du premier ministre par la plus grande faction parlementaire, la perspective de former un nouveau gouvernement semble claire, de même que le processus de formation du gouvernement et du cabinet par Shia al-Soudani ne joue pas la prolongation. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major des forces armées du gouvernement de salut national du Yémen ont souligné dans un message conjoint adressé au chef du Conseil politique suprême de ce pays, Mahdi al-Mashat, la volonté des forces militaires yéménites d'affronter les agresseurs au Yémen. À l'occasion du 59e anniversaire de la révolution du 14 octobre, le général de division Mohamed Nasser al-Atifi et le général de division Mohamed Abdul Karim al-Ramari, dans un télégramme adressé à Mahdi al-Mashat, ont déclaré que notre confrontation avec les agresseurs est une option stratégique qui ne peut être évitée, car notre histoire, nos principes et nos valeurs nous empêchent de nous rendre face aux colonialistes et aux agresseurs. La question du Yémen est claire pour tous les Yéménites, même ceux qui ont soutenu les agresseurs ou ceux qui ont refusé de sortir de leur neutralité, dans la mesure où ils étaient également victimes de leurs attaques, ont poursuivi les hauts responsables militaires du gouvernement de salut national du Yémen, dont fait partie le mouvement Ansaral. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major des forces armées du gouvernement de salut national ont souligné que l'objectif principal de l'ennemi est de détruire le Yémen, d'empiller les ressources naturelles et de faire régner le nouveau colonialisme. Faisant référence à l'entêtement de la partie saoudienne et au refus des demandes du Yémen dans l'accord de cesser le feu, le général de division Mohamed Nasser al-Atifi et le général de division Mohamed Abdul Karim al-Ramari ont déclaré que nous respectons nos conditions, soit un cessez-le-feu qui répond à toutes les demandes des Yéménites, soit une guerre que notre peuple opprimé gagnera, certes. Malgré toutes les mesures prises par le régime de Tel Aviv pour empêcher l'expansion de la stratégie de résistance dans les territoires occupés, les opérations antisionistes se sont développées de telle sorte que les combattants palestiniens ciblent actuellement les sionistes à la gare centrale de Qods. À cet égard, une source palestinienne a fait état de 24 opérations anti-israéliennes menées au cours de ces dernières 24 heures en Palestine occupée. Des sources d'information israéliennes ont annoncé un affrontement dans la gare frontalière de Qods entre Palestiniens et sionistes. Selon le Croissant Rouge palestinien, au moins 18 Palestiniens ont été blessés dans ces affrontements, dont 4 ont été transportés à l'hôpital. Selon le correspondant de la chaîne Al Mayadin, ces affrontements ont eu lieu après que les colons et les forces d'occupation ont attaqué les habitants du quartier de Sheikh Jarrah, dans la ville sainte de Rots, où les soldats ont par la suite arrêté au moins 6 Palestiniens. Plus tôt, jeudi 13 octobre, les forces israéliennes ont attaqué diverses zones en Cisjordanie et à Rots occupées et ont arrêté un certain nombre de Palestiniens sous prétexte qu'ils ont résisté devant les sionistes. L'agence de presse palestinienne Shahab a en même temps annoncé que d'intenses affrontements se déroulaient entre des jeunes Palestiniens, des soldats et des colons israéliens à Avara, située au sud de Naplouse. En réponse à ces incidents, le ministre de la Sécurité intérieure du régime sioniste, Omer Bar-Lev, a ordonné l'adhésion de 4 brigades des forces réserves israéliennes aux forces policières afin de réprimer le peuple palestinien. Cela alors que les forces d'occupation sionistes ont fait irruption dans le domicile des prisonniers palestiniens nommés Assad al-Rafi et Sopi Sabihat dans le village de Ramana à l'ouest de Jenin, où se sont produits des accrochages entre palestiniens et sionistes. Sur cette base, le centre palestinien des données, Moati, a indiqué qu'au cours des dernières 24 heures, la résistance palestinienne avait mené 55 opérations, dont 8 fusillades contre des soldats et des colons israéliens. En outre, précise le centre, 35 points de conflit avec des soldats et des colons sionistes ont été annoncés dans différentes zones en Cisjordanie. Ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.